Bonjour et bienvenue sur Nos Limites Sécu, le podcast francophone hebdomadaire dédié à la cybersécurité.
Alors aujourd'hui, il y a un épisode un peu particulier sur un sujet d'actualité avec Ivan Kwiatkowski. J'espère que je prononce bien ton nom.
Tout va bien.
Et ce sujet, c'est le leak de données iSoon. Alors, je ne sais pas comment on prononce, mais je ne parle pas chinois, désolé. Alors, Ivan, pour commencer, est-ce que tu voudrais bien te présenter en quelques mots ?
Oui, bonjour. Donc, moi, je m'appelle Ivan Kwiatkowski. Je travaille pour une société française qui s'appelle Arfang Lab, qui fait un produit EDR. Depuis quelques mois maintenant, on a une nouvelle équipe dans la société qui fait de la threat intelligence, donc spécifiquement... On se focalise sur les menaces APT qui pourraient affecter nos clients et pourquoi pas n'importe lesquels qu'on pourrait trouver ailleurs par nos propres moyens sur Internet, source ouverte ou via des flux de données privés. Et notre objectif, c'est d'arriver à comprendre mieux quel est l'état de la menace cyber. C'est de faire des rapports, qu'on pourrait dire, des rapports de renseignement pour arriver à documenter qui fait quoi sur Internet, donc qui sont les groupes d'attaquants qui mènent des activités malveillantes, quels outils ils utilisent. Et puis, de temps en temps, on a de la chance et on a des informations qui fuient, qui nous permettent d'avoir un peu plus d'informations sur comment est-ce qu'en plus ils sont organisés. Et donc là, ça va être, je pense, le sujet de notre discussion, qui est que, pour une fois, on a eu l'occasion de regarder un peu en détail les petits secrets d'une entreprise qui est spécialisée dans le vol de données. On reparlera un petit peu plus, je pense, des spécificités et puis de un peu comment est-ce qu'ils sont organisés et à quel profit. Mais ça fait aussi partie de nos sujets de recherche qui sont de comprendre comment travaillent ces groupes d'attaquants pour essayer d'anticiper la menace à l'avenir et puis surtout de mieux comprendre comment elle se structure afin d'apporter des réponses en termes de défense en face.
Alors, qu'est-ce qui s'est passé exactement ? Est-ce que tu peux faire une petite chronologie et expliquer pourquoi on fait cet épisode aujourd'hui, en fait ?
Ouais, avec plaisir. Alors, il y a beaucoup de zones d'ombre. Je pense qu'il faut commencer par dire ça. Je crois que c'était le 16 février dernier. Il y a eu un repo sur GitHub qui a été créé. Donc, un dépôt avec des documents qui ont été mis en ligne par un compte qui a été créé exclusivement pour ça. Il y a une adresse ProtonMail. Donc, c'est un individu ou un groupe d'individus, on ne sait pas, qui a créé un compte GitHub, qui a uploadé des données et qui a disparu ensuite. Il n'y a pas eu d'interaction ultérieure avec ce compte-là. Et au bout de quelques jours, je ne sais pas exactement comment est-ce que la communauté a pris connaissance de la création de ce repository. En attendant, les gens ont fini par tomber dessus et les gens ont commencé à consulter les fichiers qui avaient été mis à disposition et on s'est rendu compte de plusieurs choses. D'une part que c'était une fuite de données qui était assez importante en termes de volume, c'est-à-dire qu'il y avait à peu près 400 ou 500 mégaoctets de documents et de conversations internes d'une société qui avait été mis à disposition comme ça du public, et deux, que en toute vraisemblance, ces documents étaient authentiques. Voilà. À partir de là, ça a été un petit peu la course pour tout le monde pour essayer de comprendre qu'est-ce qu'il y avait dedans et analyser les données et essayer de voir un petit peu quel était l'impact de cette fuite de données. Peut-être qu'on peut commencer par dire un peu qu'est-ce que c'est que iSoon, le profil officiel de la société. Je ne sais pas non plus exactement comment ça se prononce, si c'est iSoon, iSoon, on va faire au mieux. En tout cas, c'est une société qui est chinoise, qui est basée à Shanghai, mais qui a des succursales dans plusieurs villes du pays, notamment une succursale à Chengdu, qui est un hub connu de la cybersécurité en Chine. Et cette boîte... on pourrait dire que c'est un prestataire cyber, tout ce qu'il y a de plus classique en apparence. Si jamais tu regardes leur site internet, ils proposent des tests d'intrusion, du consulting, du développement d'outils de sécurité spécialisés, etc., etc. Sauf qu'il s'avère, en regardant les documents, que la société fait beaucoup plus que ça. Et en épluchant un petit peu, on se rend compte que... on savait déjà que leur clientèle était principalement étatique, ça c'était quelque chose qui était affiché sur leur site internet, ils avaient tout un ensemble de références qui étaient des ministères, des bureaux de la sécurité locale, etc. etc. Il s'avère que quand on regarde leur catalogue, ils font pas juste des tests d'intrusion ou du développement spécialisé ou même du forensic ou des choses comme ça, ou de la formation, mais aussi du développement de backdoor, de la pénétration de cibles qui sont susceptibles d'être intéressantes pour leurs clients, et ainsi de suite. Et donc, on a découvert de manière assez intéressante que c'était une société qui vend des services qu'ils appellent de la recherche APT. Alors, tu sais, quand toi ou moi, on dit on fait de la recherche APT, ça veut dire quoi? Ça veut dire ben, on trouve des activités liées à des APT et on fait des recherches dessus et on publie. Eux, c'est l'inverse. Ils font des recherches en tant qu'APT, c'est-à-dire des recherches de documents et d'informations confidentielles. Donc, c'est littéralement une boîte qui avait une pignon sur rue, on pourrait dire, et qui vendait des services de piratage informatique pour tous ses clients.
Mais est-ce que cette boîte était connue d'une manière ou d'une autre avant? Est-ce qu'ils avaient participé à des CTF, des concours de sécurité? Est-ce qu'ils avaient fait des publications techniques? Ou est-ce qu'ils sortent de nulle part? Enfin, est-ce que les gens qui connaissent un petit peu, qui font un peu la certain intelligence comme toi, en avaient déjà entendu parler?
Alors, réponse en plusieurs parties. Est-ce qu'ils faisaient des CTF? Alors, ils les organisaient. C'est-à-dire, localement, c'était une boîte qui était très bien implantée. Et eux-mêmes, ils avaient des partenariats avec les universités locales. Une chose qu'on voit en lisant les fiches de documents, c'est que spécifiquement, l'acquisition de talents, c'est un problème pour eux et pour tout le marché local. Et donc, ils essayaient de résoudre ce problème et ils avaient développé tout un ensemble de solutions qui étaient aller donner des formations dans des universités, essayer de détecter les profils qui étaient intéressants, organiser des CTF pour essayer de créer un peu d'émulation ou de faire vivre une communauté, etc. Donc, est-ce qu'ils étaient dans le monde du CTF? Oui, un petit peu. Est-ce qu'ils étaient dans le monde compétitif hors de la Chine? Ça, je suis pas capable de le dire. Mais en tout cas, dans les fuites de données, on a quelques adresses mail, ça et là, qu'on a pu trouver, et qui sont liées à des joueurs de CTF. Voilà. Alors, est-ce que c'était des joueurs de CTF qui se sont inscrits aussi au CTF de Haisun? Ou est-ce que c'était des employés d'Haisun qui aussi, dont l'email a fuité à travers leur fuite de données? Ça, on peut pas faire forcément la différence. Mais on sait qu'eux, ils étaient un peu implantés dans le milieu. Alors, deuxième partie de la question, c'était, est-ce que la boîte, on la connaissait déjà? Alors, je vais te faire la réponse un peu normand, qui était un petit peu. On la connaissait, et à la fois, on la connaissait pas. C'est-à-dire que les gens qui étaient spécialisés sur le monde chinois et qui s'intéressaient vraiment spécifiquement à l'écosystème cyber de la ville de Chengdu, ils l'avaient déjà vu passer. Il y a un blog qui s'appelle NATO Thoughts, qui est sur Substack, sauf erreur de ma part, et qui est vraiment, j'ai l'impression d'être... Il est vraiment une référence sur qui est qui dans le monde business cyber chinois, et la boîte avait déjà été identifiée. Elle n'avait pas été identifiée avec... ils n'avaient pas été pointés du doigt en disant « Voilà exactement ce qu'ils font, ils correspondent à tel groupe APT », mais en revanche, on savait qu'ils étaient dans leur écosystème avec plein de boîtes autour qui, elles, avaient déjà, on va dire, attiré défavorablement l'attention des autorités américaines. Je pense spécifiquement à une boîte qui s'appelle Chengdu 404, qui est réputée, alors je ne sais pas avec quelle force on peut le dire, je pense qu'aujourd'hui on peut le dire officiellement, Chengdu 404, la boîte est APT 41, et ils sont en litige commercial avec Haisun. Ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'ils ont des relations contractuelles. On ne sait pas exactement quelle est la nature de ces relations, mais on sait qu'elles ne se sont pas super bien passées. Voilà. On sait que, d'une manière ou d'une autre, il y a une des deux boîtes qui attaque l'autre en justice parce qu'il y a un contrat qui n'a pas été rempli. Voilà. C'est aussi quelque chose qu'on voit dans les leaks. Quand tu regardes la date de la publication de l'avis d'inculpation du FBI pour Chengdu 404 en disant que c'était APT 41, t'as le même jour une conversation entre des employés haut placés de Haisun qui parlent entre eux, qui disent « Ouah purée, t'as vu ça, t'as vu le sur le site du FBI, les mecs de 404, ils se sont fait choper. » Voilà. Et il n'y a pas une seule seconde où ils disent « Mais peut-être que c'est pas eux. » Non, ils disent « D'ailleurs, prochaine fois qu'on les voit, ils vont payer 41 bières. Voilà. » C'est plutôt ça la teneur des discussions. Donc il n'y a pas vraiment de doute sur ce sujet. Donc, pour résumer, on connaissait un petit peu la boîte parce qu'elle est dans un environnement où il se passait déjà des choses qui étaient sulfureuses, et c'est un exemple de plus de un peu cet écosystème cyber de Chengdu où il se passe ce genre d'activité et où on a un ensemble de sociétés qui effectuent des activités APT au profit de leurs clients.
Bon, et donc tu récupères ces 400 mégas de documents et de conversations, mais c'est du chinois au sens propre. Donc qu'est-ce que tu fais à partir de là?
Ouais, c'est une très bonne remarque. Effectivement, moi, un des enseignements que j'ai tiré de cette fuite de données, c'est de me dire, il y a un an, je pense, deux ans, c'est sûr, tu m'aurais donné les mêmes documents, j'aurais rien pu en faire. Parce que je ne parle pas chinois, je ne suis pas spécialiste de la région, je ne suis pas analyste monde Chine, tout simplement. Moi, je fais de la cybersécurité, je peux analyser des données techniques, mais ça va pas beaucoup plus loin que ça. La bonne nouvelle pour nous, c'est que il y a quand même eu des progrès énormes qui ont été faits cette année. Alors, je ne vais pas faire tout le laïus sur l'IA, blablabla, c'est merveilleux et tout. Mais les traductions automatiques, je pense que ça a pris une ampleur phénoménale au cours de ces dernières années ou de ces derniers mois. C'est-à-dire que ce que j'ai fait, c'est que je récupère les documents, je les copie-colle dans ChatGPT et je lui dis bah, « qu'est-ce que ça raconte ?» Et ChatGPT est capable de faire de l'OCR sur les documents automatiquement et puis de les traduire, et éventuellement, quand c'est des grandes conversations, de me les résumer. Voilà. Ou alors, je peux lui mettre à l'intérieur, c'est pas un truc que j'ai fait, mais potentiellement, c'est quelque chose qui est possible. J'aurais pu lui envoyer tout le corpus et l'entraîner dessus, entre guillemets, ou faire une, je sais pas comment on appelle ça en français, un fine-tuning ou un embedding. Je leur ai donné tout le corpus de données, puis je leur ai dit, maintenant, dis-moi où est-ce que ça parle de Zero Day, ou dis-moi qu'est-ce qu'il raconte sur telle société, etc. etc. Donc ça, c'est une possibilité. Donc, qu'est-ce que j'ai fait ? Je me suis occupé de regarder des documents au cas par cas quand ils semblaient intéressants, et très rapidement, en fait, la communauté a publié des traductions complètes de tout le corpus. Donc, je ne sais pas exactement comment ils ont fait, mais il y a des chercheurs qui ont généré, en fait, qui ont fait des forks sur GitHub, qui ont passé tout le corpus dans un outil de traduction automatique et qui ont régénéré des PDF avec le même texte, mais en anglais à la place. Et donc, pour moi, ça a été extrêmement confortable parce que j'ai pu aller directement consulter les documents sans avoir à me confronter avec la barrière de la langue qui, à mon avis, il n'y a pas si longtemps, m'aurait complètement bloqué et empêché de rentrer dans le sujet. Donc vraiment, je dirais que pour ce fuite de données, la barre n'a jamais été aussi basse. Et donc, je pense que ça redéfinit un peu l'impact que peut avoir une fuite d'informations dans une langue étrangère pour l'avenir.
Une langue étrangère aussi peu pratiquée, parce que si tu trouves des fuites de données en espagnol ou en allemand, il y a quand même des gens qui savent faire quelque chose avec en Europe. Mais là, c'est sûr que le manchou, c'est moins courant. Et donc maintenant, partons du principe que les données traduites sont fidèles à la source d'origine. Et qu'est-ce qu'on peut trouver d'intéressant dans ces documents ? Qu'est-ce qu'on apprend en fait sur l'écosystème des APT, sur la manière dont ces gens travaillent, se financent ? Tu as déjà parlé des problèmes de recrutement, par exemple ?
Ouais, alors il y a beaucoup, beaucoup de choses. Donc je pense qu'il va falloir qu'on découpe en plein de questions différentes, mais il y a plein d'aspects. On découvre déjà leur catalogue. C'est-à-dire, on a tous les produits qu'ils fournissent à leurs clients. On a aussi, au-delà du catalogue, on a aussi les clients en eux-mêmes. Dans les discussions, on voit qu'ils parlent de tel bureau de la sécurité de telle province, ou alors de tel partenaire, etc., etc. Et donc, ça donne une vision à la fois de qui sont les demandeurs, mais aussi quels sont les intérêts de ces demandeurs. Parce qu'il n'y a pas juste on va dire les commandes en direct, d'ailleurs je crois qu'elles n'y sont pas, mais par contre il y a les discussions entre employés où ils parlent de leurs interactions avec les clients. On les voit qui râlent parce qu'ils en ont marre d'interagir avec la police, on les voit qui disent ils ont essayé de pitcher telle donnée qu'ils ont volée à tel endroit, à telle organisation, mais qu'elle n'en a pas voulu parce qu'elle ne les intéresse pas. Donc ça c'est intéressant aussi. Puis aussi, enfin, on voit l'ambiance à l'intérieur de la boîte, un peu comment ils s'organisent. On voit les grilles de salaire des gens, ça c'est toujours rigolo. Mais de manière plus globale, je dirais qu'on apprend des choses sur cet écosystème-là. Je ne sais pas s'il est transposable forcément au reste du monde. C'est-à-dire que des boîtes qui font du mercenariat, on va dire, on sait qu'il en existe ailleurs. Est-ce qu'elles fonctionnent pareil que iSoon ? Ça, je ne suis pas capable de le dire. Et est-ce que toutes les boîtes chinoises fonctionnent pareil que iSoon ? Mon intuition me dit que probablement, ça doit être assez répétable, mais je ne peux pas le garantir. Donc, il faut prendre quand même quelques pincettes à ce sujet.
Mais donc, qu'est-ce qu'il y a comme enseignement majeur ? Est-ce que, par exemple, si tu fais de l'APT, tu es bien payé ? Ou tu peux garder les bitcoins que tu as volés ou pas ?
Alors, ça a été une des premières choses qui est ressortie du leak. Je pense que c'est pas la plus intéressante, mais c'est quelque chose qui est marrant. Donc on peut s'attarder 2 minutes dessus, c'est de voir que les grilles de salaire, elles sont très 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 basses. Là, les pentesters entre guillemets, alors j'ai plus exactement les chiffres en tête, alors il faudra me pardonner, mais je crois que de mémoire, c'était l'équivalent de 1 500 $ par mois, quelque chose comme ça, pour aller pirater des sites gouvernementaux, quoi. Alors, sur les chiffres, voilà, je serais peut-être un peu à côté de la plaque. Ce dont je suis certain, c'est que là, par contre, on les voit râler. Voilà. On voit que les employés, dans leur chat interne, ils sont pas du tout contents de leur salaire, qu'ils n'arrêtent pas d'essayer de se barrer entre eux, au point où, entre plus cette boîte Chengdu 404 et iSoon, ils s'étaient mis d'accord pour avoir un accord de non comment on appelle ça en français ?
Non-débauchage, oui.
Ouais, c'est ça. Ils s'étaient mis d'accord pour pas se piquer les employés les uns des autres, parce que j'imagine que la situation devenait ingérable. Enfin, t'arrives pas à des accords comme ça si jamais il n'y a pas un problème à résoudre d'abord, quoi. Voilà. Toujours est-il que les employés, ils n'étaient pas super bien payés, et c'était vrai à tous les niveaux de hiérarchique. Hein. C'est-à-dire que, alors peut-être pas le PDG, je crois que dans la grille de salaire, il n'est pas trop mal, mais les pentesters ne sont pas contents, les secrétaires, tu les vois râler, même râler de manière importante sur le fait qu'elles n'ont pas été augmentées depuis longtemps. Donc, voilà, à ce niveau, c'était un peu... tu sentais une certaine tension.
On va revenir sur cette question plus tard, mais je fais une petite digression. Tu parles de chat interne. Est-ce que ça sous-entend que tous les chats et tous les DM entre les employés étaient logués et que ces logs ont ensuite fuité? Est-ce que c'est l'attaquant qui a décidé d'activer des fonctions de logging, ou est-ce que tu penses que l'entreprise en elle-même conservait des logs de manière permanente et qu'ils ont fuité avec tout le reste?
Alors ça, c'est une question super intéressante. Merci de l'avoir posée, parce que ça permet de revenir sur un point qu'on a tout juste effleuré. C'est la question de l'origine de ces leaks. À l'heure actuelle, on n'est pas capable de dire qui a fait fuiter ces informations. Le fait que les employés soient manifestement mécontents en interne, ça laisse penser, ou ça a incité beaucoup de gens à croire que c'était sûrement une fuite de données interne. Mais si jamais tu regardes les données, t'as quoi? T'as des documents commerciaux qui sont des catalogues de produits ou les plaquettes distribuées aux clients ou aux clients potentiels, aux prospects. Ça, typiquement, ce serait le genre d'information qui est chez les sales. Tu as les grilles de salaire internes. Tu as des conversations privées entre les employés. Alors, je ne sais pas quel logiciel ils utilisent. Peut-être QQ, c'est peut-être WeChat, un équivalent local. Mais tu vois, c'est des exports HTML de discussions internes sur un client de messagerie. Tu as aussi... qu'est-ce que tu as d'autre? Tu as des screenshots de conversations sur téléphone portable. Tu vois, c'est un mélange de données qui est un petit peu hétérogène quand même. Tu dis, si jamais tu réfléchis à qui a accès à la fois... aux conversations et à la doc commerciale et au téléphone portable, c'est pas super clair. Tu vois, j'ai pas le profil qui me saute en tête. Tu vois, c'est pas le mec des ventes qui est pas bien payé, c'est pas non plus le pentester, c'est pas la secrétaire, c'est un peu particulier. Donc, il y a un mystère qui demeure à ce niveau-là. Ma théorie, c'est que si jamais tu regardes les documents, déjà, il y a une chose qu'on peut dire, c'est que certainement il y a eu du piratage à un moment ou un autre. Parce que moi, je vois pas qui dans la boîte avait accès à tout ça, à moins que ce soit peut-être l'admin 6, un truc du genre, mais à moins que ce soit l'admin 6. Je pense pas que cet ensemble de données ait pu être récupéré sans une forme de piratage. Alors, on va me dire, une société qui embauche des pirates informatiques, potentiellement, ça réduit pas énormément la liste des suspects. Mais c'est intéressant malgré tout. Voilà. Deuxième point, c'est que les risques encourus, je pense, en Chine pour ce genre de fuite de données, ils sont importants. Parce que, effectivement, il y a la question de données internes, de NDA peut-être, ou de clause de non-dévoilement d'informations sensibles auxquelles tu peux avoir accès, etc. Je suppose que c'est réprimé sévèrement. Le fait d'avoir embarrassé le gouvernement chinois, je pense que tu peux prendre assez cher, en fait. Donc, je suspecte que si jamais c'est un employé de Haisun, certainement que la personne, enfin moi j'imagine pas quelqu'un faire ça si jamais il peut pas se barrer du pays juste après ou s'il n'est pas déjà sorti. Donc ça c'est une hypothèse. L'autre hypothèse, et qui est pour moi la plus crédible, ce serait que ce soit un groupe APT quelconque qui ait réussi à rentrer chez Haisun, qui ait collecté toutes les données qu'il pouvait sur le réseau pendant X temps, et puis qui ait décidé à la fin, une fois qu'ils avaient récupéré tout ce qui les intéressait, de tout balancer pour créer... Alors, soit un incident diplomatique, le terme est un peu fort, même si honnêtement, on en reparlera quand on regardera la liste des victimes, mais ça met la Chine dans une position qui est un petit peu délicate par rapport à certaines déclarations publiques. Malgré tout, ça peut être donc soit pour embarrasser politiquement, soit aussi pour qu'ensuite des forces de police quelconques se saisissent de ces documents, traitent les informations et puis puissent lancer une procédure judiciaire. Voilà. Et donc là, tu te retrouves avec, je ne sais pas exactement comment appeler ça, mais si jamais c'est des données qui ont été volées par une institution policière ou judiciaire, tu ne peux pas forcément, si c'est acquis de manière illégale, directement réutiliser cette information de manière au tribunal, ou en tout cas, tu ne peux pas monter une inculpation avec des données volées, en tout cas pas à ma connaissance. Mais par contre, si jamais ça a fuité dans la nature miraculeusement et qu'ensuite la police se télécharge sur GitHub, là, je pense que c'est une autre histoire. Donc ça peut être une autre visée de ce type d'opération qu'on appelle de hack and leak. Pour moi, c'est le plus probable, c'est qu'effectivement, c'est un groupe APT ou une agence gouvernementale quelconque qui est rentrée dans leur réseau et qui a fait fuiter les données. Mais c'est pas impossible que ce soit un employé interne qui ait décidé de faire ça. Je pense juste que c'est moins probable, mais tout le monde n'est pas d'accord là-dessus.
Effectivement, et peut-être qu'on n'aura pas le fin mot de l'histoire. Est-ce que ces données sont fiables d'après toi? Parce qu'il y a eu des fuites par le passé où une partie des données en fait avait été générée manuellement, ou tu vois, C'était un mélange de vrai et de faux. Est-ce que tu parles de clients embarrassants? Est-ce qu'il est possible que ces clients aient été ajoutés artificiellement, ou est-ce que 100% des données sont authentiques?
C'est une question qui est assez compliquée. La première chose qu'on peut dire, c'est que l'ensemble, c'est-à-dire la majorité des documents, est très vraisemblablement fiable. Pourquoi? Parce que dans une interview, qu'il y a eu une question qui a été posée par Associated Press aux États-Unis, c'est l'agence américaine, ils ont posé les questions à Aysoun un peu après la fuite. Ils ont demandé alors qu'est-ce que c'est que cette fuite de documents. La réponse n'était pas ils sont tous faux et c'est une machination. La réponse était on est en train de regarder comment est-ce qu'ils ont pu se retrouver dans la nature. Donc ce qui sous-entend déjà qu'ils ne sont pas en train de contester la véracité. Mais tu soulignais à raison que potentiellement, c'est pas parce que la majorité des documents sont légitimes qu'il n'y a pas des modifications qui ont été faites dedans subtilement. Et ça, c'est un peu plus compliqué à évaluer. On n'est pas vraiment capable de dire... Actuellement, personne n'a trouvé de documents ou de modifications qui laisseraient penser qu'il y a eu des données qui ont été insérées. Il est possible qu'il y ait des données qui aient été supprimées. Ça, on ne le saurait pas. Donc ça peut être une fuite de données sélective ou partielle. On n'est pas capable de le dire. Je pense qu'on n'aura jamais le fin mot de cette histoire-là. Peut-être qu'un jour, on trouvera quelque chose qui nous laissera penser qu'il y a eu des modifications malveillantes de ce corpus de données. En attendant, ce qu'on peut dire actuellement, c'est que dans les petites informations qu'on a réussi à extraire en termes d'IOC, d'indicateurs de compromission qui étaient à l'intérieur, il y a eu des corrélations qui ont pu être faites avec des campagnes APT existantes. Et donc ça laisse penser au moins une chose, c'est que parmi ce qu'on voit, il y a forcément du risque. C'est trop cohérent pour arrêter une machination complète. Voilà. Ça peut être une petite machination ou une machination partielle, mais la base est comme un bon mensonge et au moins constituée de 90% de vérité.
Ok, alors revenons sur les données intéressantes qu'on peut extraire à part les salaires. Tu mentionnes des campagnes APT, des cibles embarrassantes. Qu'est-ce qu'on a dans ce domaine?
Alors, beaucoup de choses. Moi, je trouvais que ce qui était intéressant, c'était déjà le catalogue. Donc, la boîte, qu'est-ce qu'ils vendent? Alors, ils vendent plein de trucs. Ils vendent à la fois des produits, à la fois des services, aussi des formations, des choses comme ça. Peut-être commençons par parler des services. Donc, le service, c'est spécifiquement recherche APT. Donc, on leur donne une cible, ils rentrent chez cette cible, et puis ils fournissent le renseignement qui correspond. Ce qui m'intéressait, moi, c'était de voir qu'il y avait plein de modes d'opération différents. Ils sont extrêmement flexibles, en fait, sur le catalogue. Ça peut être soit on leur donne une cible, et puis ils trouvent l'accès à cette cible, et ils donnent la porte d'entrée à leur commanditaire, et puis ensuite le commanditaire rentre dans le réseau, et il exploite comme il veut. Ça peut être eux qui rentrent dans le réseau, qui téléchargent toutes les données, et ensuite qui donnent les documents volés au commanditaire. Ils ont même un dernier mode d'opération, qui est carrément le mode tout intégré, où ils se comportent comme un service de renseignement privé, et carrément, ils rentrent chez la victime, ils prennent les documents, ils analysent les documents, et ils rédigent directement des notes de synthèse, des briefings, ils sortent les documents intéressants pour la considération du client. Et donc je trouvais que c'était intéressant, parce que vraiment, ça montre qu'ils ont toute la chaîne. C'est pas juste la partie piratage informatique, c'est la partie renseignement cyber de A à Z. Donc ça, c'était plutôt intéressant. Ils ont même un quatrième mode, c'est le fait de, si jamais t'es un client et que t'as tes propres opérations, mais que tu manques un peu de personnel, tu peux louer des jours hommes de pirates informatiques et te les envoie dans tes locaux et puis viennent participer aux opérations cyber. Donc ça, j'avais trouvé que c'était plutôt marrant. Ensuite, sur les produits, ils ont, pour commencer, des backdoors. Ils en ont un certain nombre. Windows, ils en ont sur Linux, ils en ont sur macOS. Pas grand-chose de très intéressant à dire sur ces backdoors-là, parce que même quand tu regardes le catalogue et puis les fonctionnalités qui sont présentées à l'intérieur, c'est vraiment... ça va pas chercher bien loin. Il n'y a pas un niveau de sophistication particulièrement élevé. Tout ce qu'ils veulent, c'est avoir des downloads exécutés qui peuvent exécuter des commandes arbitraires et plus ou moins un point, c'est tout. Que ça se fasse pas trop détecter. Un point intéressant, c'est que quand on regarde un peu les noms internes qui fuient sur les screenshots, on a l'impression que ce qu'ils vendent, c'est du Winty et du Shadowpad, qui sont des backdoors bien connus, des gens qui travaillent sur les APT chinoises. Alors, ma théorie personnelle, c'est que c'est eux les développeurs de Shadowpad et que c'est eux qui le revendent à tout l'écosystème. D'ailleurs, ils vendent avec le code source. Donc pour moi, ça expliquerait pourquoi est-ce qu'on se retrouve avec plein de variantes de Shadowpad dans tous les sens, sur toutes les APT qui sont liées à la menace sinophone. Donc il y a cet aspect-là. Et puis je pense que Winty, ce serait plutôt une backdoor qu'ils ont acheté à des partenaires ou des concurrents et qu'ils utilisent eux-mêmes dans leurs propres opérations. Un point qui saute aux yeux quand on regarde leur virus, c'est de voir que même ces virus pas super sophistiqués, ils sont un peu en galère pour les maintenir. Dans le sens où, tu vois, dans la conversation où il parle avec je sais pas qui, en disant ouais, pour telle opération, il nous faut une backdoor Linux, et puis il dit ouais, mais en fait, on n'en a pas, est-ce que tu peux demander à machin de telle boîte s'il peut pas nous enfiler un, quoi. Ils en sont là. Quoi. Alors que tu pourrais te dire, faire un download execute en Linux, c'est pas super compliqué. En fait, globalement, c'est un petit peu la backdoor jetable que toute APT va avoir à profusion. Mais voilà, pour eux, la partie dev, c'est un peu compliqué. Voilà, on voit que peut-être que c'est pas leur cœur de métier, tout simplement, mais que cet aspect de développement de backdoor, bon, ils le font parce qu'il y a des besoins, et pour leur propre opération, mais ils sont pas à fond dessus. Voilà.
Excuse-moi de t'interrompre, mais du coup, je me pose une question sur la taille de la boîte, parce que tu dis qu'ils sont capables de mener des opérations de bout en bout, qu'il y ait des développeurs. Enfin, est-ce qu'ils ont des linguistes, des gens qui parlent? Et c'est quoi comme chiffre d'affaires, comme nombre d'employés? On se parle de quoi? Alors, on se parle d'une boutique de 20 personnes ou on se parle d'une multinationale, une ESN
Le chiffre d'affaires, je ne suis pas capable de te le donner. Par contre, ils sont, d'après leur immatriculation sur le société.com local, 70 personnes environ, en sachant que dans leur slide sur leur équipe APT, ils prétendaient être 3 équipes de pentest plus une équipe de support. Voilà. Donc je ne sais pas exactement combien de personnes ça représente, mais je dirais pas énorme, tu vois, je dirais des équipes, c'est peut-être 5 personnes chacune. Donc disons, à la louche, ils sont 20 personnes qui font vraiment la partie sécu, la sécu APT, et puis le reste, peut-être des gens qui font les services légitimes, on va dire, ou alors les commerciaux et le support technique, les staff administratifs. Voilà, je pense que c'est ça.
Ok, donc tu disais qu'ils étaient en galère de backdoor Linux et qu'ils faisaient des deals avec leurs concurrents, et je t'ai interrompu à ce moment-là, tu étais allé passer sur un autre point.
Ouais, en fait, même toujours sur le plan des backdoors, moi, un truc qui m'avait stupéfait complètement, c'était de voir dans une discussion que sur un appel d'offres, ils étaient en train de dire, bon, si jamais le client, machin, il trouve que c'est trop cher, bah, pour faire baisser la facture, il a qu'à nous donner sa propre backdoor, et on utilise sa backdoor dans notre opération, et auquel cas, bah, on lui déduit le prix de la backdoor du devis, quoi. Et pour moi, alors ça c'est un thème qui va revenir, mais c'était hyper frappant de me dire qu'il y a une telle porosité entre les clients et puis la société Isoon, et je pense que ça pour le coup c'est vraiment répandu sur tout le tissu industriel local, telle porosité que entre les clients manifestement étatiques et puis le prestataire privé, ils sont prêts à se donner les backdoors, à se les échanger, enfin, il n'y a pas de problème avec ça. Moi, ma compréhension de l'écosystème occidental serait que, t'imagines, t'es en discussion avec je sais pas quel ministère de je sais pas quel pays européen, mais jamais ils te donnent leur backdoor, quoi. Jamais ils te permettraient de regarder qu'est-ce qu'ils utilisent en opération pour ensuite ils permettraient de corréler tout ce qu'ils ont fait partout ailleurs sur la planète. Donc ça, pour moi, c'était vraiment marquant parce que ça montrait qu'ils sont vraiment, c'est quoi l'expression, ils sont cul et chemise, quoi. En fait, c'est vraiment entre public et privé, là, c'est tout pareil, en fait. Voilà. C'est comme si c'était la même maison.
C'est un peu le principe du communisme, non? Tout est public.
Ouais, c'est ça, tout est partagé, tout est mis en commun, et effectivement, là, au niveau des backdoors, c'est un truc qui se voit très très bien. Le Shadowpad, c'est tout le monde l'utilise localement, on le voit partout, et effectivement, on peut dire qu'il y a un vrai communisme cyber qui est fait à ce niveau-là.
Ok, alors est-ce que tu vois d'autres choses intéressantes en particulier dans la liste des cibles ou dans la façon dont ils vont aller attaquer des services en ligne, par exemple?
Alors ouais, plein de choses. Deuxième truc que je peux dire, c'est un truc qui manque dans leur catalogue, qu'on voit jamais, c'est les Zero Day. Ils évoquent un peu le sujet, dans le sens où ils en parlent parce que des fois, ils connaissent des mecs qui en ont ou ils peuvent en réutiliser, mais ils n'ont pas l'air d'avoir une équipe interne qui est capable de rechercher des Zero Day. Manifestement, ce qu'on voit dans les discussions, c'est qu'ils n'ont pas le niveau technique pour pouvoir les maintenir eux-mêmes. Il y a une discussion qui était là aussi, qui m'a abasourdi. Il parlait de la Tianfu Cup. Je ne sais pas si tu connais, c'est l'équivalent chinois du Puntuan. En fait, ils appellent ça le Puntuan chinois sur leur site officiel, donc il n'y a pas du tout de dire, c'est assez clair ce que c'est. Et en fait, dans les discussions, entre les dirigeants de Isoon étaient en train de dire, bon, quand est-ce qu'on aura accès aux POC qui ont été trouvés pendant la Tianfu Cup? Parce que, manifestement, il y a un processus tout à fait institutionnalisé où les preuves de concept qui sont trouvées donc sur les vulnérabilités découvertes pendant la Tianfu Cup, elles sont remontées quelque part, on ne sait pas où, dans, je suppose, une instance publique, et ensuite, elles ruissellent vers les différents Alors, on va appeler ça ouais, les différents bureaux de sécurité de chaque province. Alors, ils les ont pas tous, parce que manifestement, dans les discussions, ils ont l'air de dire que certaines provinces sont mieux loties que d'autres en fonction de leur niveau technique. Mais voilà, donc ça redescend jusqu'aux provinces, et puis après, les provinces, elles-mêmes, hop, elles font ruisseler jusqu'à leur prestataire privé en leur redonnant les preuves de concept. Donc ça, c'était quand même assez intéressant, parce que si jamais on apprenait que le Puntuon faisait ça, je pense que ça ferait un peu de bruit. Je pense que ce serait un petit scandale. Ce qui était intéressant dans ces conversations aussi, c'était de voir que quand on parlait de récupérer les preuves de concept, les mecs de Haesun, ils disaient plutôt alors, on pourrait les récupérer, on voulait les récupérer à terme, mais par contre, c'est juste d'époque, et les transformer en vrais exploits fiables et stables, c'est vraiment super compliqué, ça sous-entendait qu'ils n'avaient pas forcément la capacité en interne de le faire, et ils disaient plutôt, bon, on va attendre que quelqu'un s'en occupe, et puis après que ça se répartisse dans la communauté, quoi. Donc, clairement, ça allait se propager de manière spontanée.
Mais tu veux dire qu'en fait, ils n'ont pas la capacité à faire des one day non plus, c'est-à-dire à prendre des failles assez récentes et à écrire des exploits fonctionnels avant que les gens aient le temps de patcher ?
Eh bien, je suspecte que ce n'est pas le cas. Alors, ça ne veut pas dire que l'écosystème n'est pas capable de le faire dans son ensemble. Qu'on soit bien d'accord, il y a des chercheurs de Vuln d'origine chinoise qui sont extrêmement bons. Je crois que la team Pangu, qui fait des jailbreaks iOS, ils sont de là-bas. Eux, ils sont largement capables de faire ces choses-là. En tout cas, Haesun spécifiquement, en interne, manifestement, la capacité de recherche et stabilisation de vulnérabilité, ce n'était pas un truc qui est maîtrisé très bien. Voilà. Et donc, c'est un grand absent du catalogue. Il mentionne quelques failles de temps à autre. Il évoque une fois Mikrotik, une fois peut-être Fortinet plus sur 100%, et aussi il parle d'une vulnérabilité pour soit QQ, soit WeChat, un truc comme ça qui permet d'identifier l'utilisateur, mais ça ne vient pas de chez eux. Voilà, c'est vraiment des trucs qu'ils récupèrent, que quelqu'un d'autre leur a donné, puis après qu'ils peuvent utiliser pour leurs propres besoins.
Ok, c'est effectivement une information intéressante parce qu'on parle beaucoup du coût des zero day et de leur utilisation dans l'écosystème. J'ai presque envie de te poser une question troll, même si ce n'est pas encore la fin de l'émission, mais est-ce qu'ils parlent de l'IA aussi ? Ou est-ce qu'ils utilisent l'IA pour générer des exploits et trouver des failles ou pas du tout ?
Alors, ce n'est pas une question troll et j'allais y venir. En fait, ils parlent effectivement d'IA et je pense que ça, c'est un des points secrètement les plus intéressants de ce leak. Parce que ils vendent dans leur catalogue beaucoup de plateformes à leurs clients, et ces plateformes, elles font plein de trucs. Bref, ils en ont, je pense, une bonne douzaine de plateformes différentes qui, à mon avis, sont toutes basées sur le même moteur. Et qu'est-ce qu'elles font ? C'est des plateformes dans lesquelles tu balances des informations. Ça peut être des bases de données volées, ça peut être des documents, ça peut être des données prises chez les opérateurs télécoms, par exemple, ou des bases nationales de cartes d'identité, enfin, peu importe. T'imagines des données ou structurées ou déstructurées. T'imagines que t'es un service de renseignement, t'as 14 gigas de fichiers à plat et t'as envie de les exploiter. Ça, en fait, c'est un problème. C'est un problème parce que ça fait beaucoup de documents à lire, comme tu peux imaginer déjà. Tu vois, le lit Haesun de 500 mégas, ça m'a pris un peu de temps. Ouais, tu vois. Et donc, eux, le problème qu'ils ont, c'est celui-là. Ils ont beaucoup de documents et ils savent pas comment est-ce qu'ils peuvent efficacement les analyser. Donc, ils ont développé des plateformes. Ils en ont une spéciale pour les sites de paris en ligne. Ils en ont une spéciale pour les données télécom. Ils ont une plateforme spéciale pour les emails qui viennent de Exchange, etc., etc. Et ces plateformes, c'est une espèce de gros framework avec... alors, je sais pas qu'est-ce qu'ils ont comme techno à l'intérieur, mais en tout cas, c'est une base de données, un dashboard qui permet de faire des requêtes sur les données récupérées. Et dedans, il y a, dans les docs commerciales, des mentions de l'IA, justement. Ils font du deep learning pour automatiquement trier, classifier, sélectionner. Alors, ils n'expliquent pas comment et pourquoi, mais on peut faire quelques hypothèses. Par exemple, ils ont cette plateforme qui s'appelle le Microsoft Secret Extraction Platform, ou je ne sais pas quoi. C'est quoi ? C'est une espèce de plateforme qui peut envoyer automatiquement des liens de phishing aux victimes, et qui, une fois que la victime a cliqué, va siphonner automatiquement les mails. Donc, c'est-à-dire que dès qu'il y aura un nouvel mail qui va arriver, elle va récupérer. Ils ont la même chose pour Twitter. Tu te fais ficher ton compte Twitter, mais après, ils récupèrent tous les tweets que tu fais, ils récupèrent les messages privés au fur et à mesure qu'ils arrivent, et ainsi de suite. Et puis ça, tu peux le décliner pour toute source de données. Une fois que tu as, je sais pas, 14 gigas de mails, à trier, c'est un peu compliqué. Mais si jamais tu mets un modèle de deep learning, je pense que tu peux te faciliter la vie. Il parle par exemple de reconstituer les graphes sociaux de manière automatique. Par exemple, si tu vois, tu as un email qui parle de José, peut-être que le modèle du deep learning est capable de dire « Ok, José, c'est sûrement josé.truc@nomdomaine.fr qu'on a vu dans un mail plus tôt. » Ils peuvent aussi faire de l'analyse de sentiments, ils peuvent faire de l'extraction aussi de relations, enfin de nature de relations entre les employés, je présume. Par exemple, on peut dire, voilà, je vois que machin et machin, ils parlent souvent ensemble, et en fonction du niveau de politesse qui est utilisé, peut-être que machin, c'est le boss de l'autre, ou peut-être qu'ils sont potes sur des postes équivalents, etc. Je pense qu'ils reconstruisent des graphes comme ça. Je pense pas qu'ils ont... Ils en sont au niveau LLM, où ils balancent tout dans un modèle de langage et qui commencent à poser des questions directement au modèle. Mais ce qui est sûr, c'est qu'ils ont développé des modèles d'extraction et de classification d'informations volées. Et ça, je trouve que c'est vachement intéressant. Pourquoi ? Parce que ça montre un truc. On a parlé un petit peu, et de manière pas toujours charitable, de leur niveau technique, en disant, bon, leurs backdoors, elles sont pas terribles, les mecs, ils font que du phishing, y a les zero day, c'est un peu trop compliqué pour eux, etc., etc. N'empêche que le constat qu'on fait quand on regarde le catalogue, c'est quoi ? C'est de dire, les mecs, ils ont tellement de données que ce sur quoi ils investissent, c'est comment arriver à les traiter. Ils n'ont pas de problème pour rentrer chez leurs clients. Ils n'ont pas de problème pour rentrer chez les victimes. Ils n'ont pas de problème pour voler plus de données. Là, ils en ont trop, en fait. Le problème technique qu'ils cherchent à résoudre, c'est pas comment on pirate mieux les gens. C'est maintenant qu'on est trop efficace à pirater les gens, comment on fait pour gérer la volumétrie, parce que là, on s'en sort plus. Et ça, c'est hyper intéressant pour moi. Alors, ça montre que, la liste des victimes, d'ailleurs, est parlant de ce sujet, on en reparlera plus tard, mais ça montre qu'ils ont beau être d'un niveau technique qui est moyen moins, voire faible, ils ont un succès opérationnel qui est incontestable, et ils ont réussi à dérober des quantités de données astronomiques. On le voit aussi dans la variété des données de victimes qui ont fuité dans ce leak. Il y a par exemple des données d'opérateurs télécoms, tu vois. Il y a des données de compagnies aériennes, tout ça. Donc ça fait beaucoup de victimes, prestigieuses pour la plupart, hein, c'est beaucoup, beaucoup de gouvernements à droite, à gauche. Donc le fait qu'ils aient décidé que c'était là-dessus qu'il fallait investir, donc à savoir traiter la donnée volée, et qu'ils aient décidé que l'IA c'était la bonne manière de faire, bah, je trouve que c'est super intéressant. Et je pense que maintenant qu'on est en 2024, à mon avis, la prochaine évolution technologique, bah, ça va être de remplacer leur modèle deep learning par des modèles de langage, certainement. C'est à ça que je m'attends.
Bon, tu tournes autour du pot depuis le début de l'émission. Je pense que les auditeurs sont bien teasés, là. Donc, c'est quoi cette liste de victimes high profile dont tu parles ?
Ouais, alors, bah, écoute, on peut y aller, hein. Ils sont sur les 5 continents. On peut commencer par dire ça. Ils ont un vrai focus sur tout ce qui est Asie. Vraiment, c'est leur cœur de métier. On a quelques victimes qui sont après un peu éparpillées partout dans le monde, mais ils sont vraiment concentrés sur ça. En Asie, qu'est-ce qu'on a ? On a du Pakistan, Afghanistan, Kyrgyzstan, Kazakhstan, Inde, Népal, Malaisie, Thaïlande, Vietnam, Mongolie, Taïwan, Corée du Sud, Philippines. Alors, Chine, il y a de la Chine, effectivement, parce qu'ils font aussi du renseignement domestique. On voit des références aux communautés tibétaines et aux Ouïghours. Spécifiquement, il y a un appel d'offres auquel ils répondent, qui est spécifiquement... dédié à la province du... alors, je ne sais pas si c'est une province, le Xinjiang, ou si c'est une autre appellation, mais en tout cas, cette région-là, où il y a le Xinjiang avec la communauté ouïghour dedans, qui est le centre d'attention médiatique depuis quelques années, ils répondaient à un appel d'offres du bureau de sécurité locale pour les aider justement à faire face à la menace terroriste. Voilà. Donc ça fait partie du catalogue. On a étonnamment le Royaume-Uni. Royaume-Uni, ils ont pété plein de trucs là-bas. On a quoi ? On a le ministère de la Justice, le Trésor, enfin le British Treasury, je sais pas comment traduire ça. Ils ont les départements du business, de l'énergie, de la stratégie industrielle, département du transport, la NCA, la National Crime Agency aussi, des think tanks locaux. On suspecte que la raison pour laquelle ils soient si intéressés par la Grande-Bretagne, c'est à cause des liens avec Hong Kong. En tout cas, pendant qu'il y avait des révolutions. Alors, Hong Kong aussi, il y avait des victimes là-bas. En France, bon, tout le monde en a parlé. Il y a eu un mec de chez Sciences Po qui, le pauvre, ne savait pas pourquoi il était là-dedans. On avait le ministère des Finances roumain, la secrétaire des Affaires européennes de la Macédoine. Aux États-Unis, on a un think tank. Au Pérou, on a l'armée. On a du Moyen-Orient avec la Turquie, la Palestine. En Afrique, ils sont un peu présents, mais pas beaucoup. C'est-à-dire qu'il y a des victimes militaires en Afrique du Sud, la Banque Nationale d'Éthiopie, des sites gouvernementaux en Égypte. Enfin bref, ils sont vraiment partout. Ce qui les intéresse, c'est quoi ? Ça va être tout ce qui est renseignement stratégique, donc militaire, renseignement, université. Ils ont fait pas mal aussi. Dans les appels d'offres, on voit que les clients demandent des choses comme la base de données nationale de toutes les cartes d'identité avec les informations personnelles qui sont associées. Par exemple, je crois que spécifiquement, il y a une référence à l'Inde dans un des appels d'offres ou pour lequel le client il demande pour l'Inde la liste de tous les... je sais pas comment on pourrait appeler ça, mais voilà, la liste de tous les individus de la population indienne avec à côté... parmi les informations, ils veulent la date de naissance, l'adresse postale, ils veulent je sais pas comment on appelle ça, l'ethnicité ou la caste à laquelle ils appartiennent, etc., etc. Enfin bref, la totale, quoi. Ils ont piraté des compagnies aériennes, c'était lesquelles, il y a Air Vietnam qui est dedans, je crois qu'il y a Air Macao aussi. Ils ont pété des opérateurs télécoms pour récupérer toutes les factures détaillées, donc qui a appelé qui, à quel moment, à quelle heure, plus la géolocalisation. Enfin, tout ce que tu pourrais imaginer qu'il y a à ces séries de renseignements, c'était pour eux, quoi.
Est-ce qu'il y a quoi que ce soit là-dedans qui peut être corrélé avec des affaires publiques? Ou est-ce que finalement, il n'y a que les affaires de ransomware qui deviennent publiques parce qu'il y a des interruptions de service, mais tous ces cas d'espionnage, en fait, ont été... ou peut-être que les clients ne l'avaient même pas détecté et que c'est pour ça qu'il n'y a pas d'affaires publiques associées?
Alors, dans beaucoup de cas, quand on fait des rapports sur des campagnes APT, et qu'on publie ce qu'ont fait les attaquants dans le contexte de cette campagne, en général, on ne publie pas le nom des victimes. C'est-à-dire que, tu vois, quand j'écris un rapport pour Arfang Lab, si jamais on a trouvé des victimes européennes, on pourra dire des choses comme un ministère français ou alors des ministères des Affaires étrangères européens. Mais on ne va jamais pointer du doigt exactement quelle est la victime pour des raisons diplomatiques, commerciales, enfin, tout ça, quoi. Donc, c'est pas parce qu'il n'y a pas eu d'article de presse sur ces victimes que c'est pas déjà des campagnes qui avaient été documentées. Voilà. C'est peut-être des choses que des gens avaient déjà vues, mais qui avaient été évoquées de manière un petit peu floue pour plein de bonnes raisons qui n'ont rien à voir avec la threat intel et tout à voir avec la politique. En revanche, ce qu'on peut dire, c'est que grâce aux informations qu'on a vues dans ces fuites de documents, sur plein de screenshots, on voit des adresses IP, on peut voir dans les conversations aussi, on peut voir des mecs qui se donnent les credentials pour se connecter à des serveurs qui sont des serveurs de command control. Et en fait, quand on corrèle ça avec des rapports qui avaient déjà été publiés, ben on voit que Trend Micro, ESET et d'autres sociétés avaient déjà écrit sur les campagnes en question. Voilà, donc, tu vois, par exemple, l'exemple que je peux donner, c'est dans un des screenshots, on voit on voit une capture d'écran de la backdoor qui s'appelle qui est liée à Shadowpad, et qui est préconfiguré avec l'adresse IP qui est à l'intérieur. En fait, si tu regardes cette adresse IP, tu tombes sur un rapport de Citizen Lab qui datait de, je crois, 2021, et dans lequel ils évoquaient des attaques contre des universités à Hong Kong. Voilà. Donc, effectivement, on avait déjà connaissance de certaines activités qu'ils avaient conduites. Voilà. Mais on ne savait pas forcément que c'était eux qui étaient derrière. Voilà. Mais je pense aussi que, certainement, il y a un ensemble de victimes là qui vont découvrir qu'ils avaient été piratés, parce que vu le nombre, c'est impensable que tous aient été au courant. C'est aussi impensable qu'aucun ne l'ait été.
Alors, je change un peu de sujet quand même, mais ce qui m'intrigue, parce que là, tu parles quand même de cibles, on va dire, high profile, enfin, tu vois, ministère de la Défense, base de cartes d'identité et autres, et qu'il n'y a pas derrière de technicité ou de 0D, mais alors c'est quoi leur technique? C'est juste un vieux mail de phishing, et dans 99% des cas, ça marche, et ça permet de récupérer des bases de citoyens et des choses comme ça?
Alors, on ne sait pas à quel point... On a quelque chose qui fuite sur le phishing, sur la méthodologie. On sait qu'ils parlent beaucoup de phishing et que ça a l'air d'être leur vecteur numéro 1. Voilà. Peut-être que quand il y a des 0D qui tombent sur GitHub ou des One Day qui arrivent, qui permettent, tu vois, d'exploiter, je ne sais pas, Shellshock ou dernière vulnérabilité Ivanti ou je ne sais pas quoi, je pense qu'ils se jettent dessus, évidemment. Quand une fois que c'est bien stabilisé, bien armé pour être décliné en opération, je pense qu'ils s'en servent. Mais ils parlent beaucoup de phishing. Ils disent ouvertement qu'ils sont bons là-dessus, je pense que c'est sûrement vrai. Et il y a un document dans lequel ils parlent un tout petit peu de méthodologie, spécifiquement quand ils envoient un lien, le lien malveillant à la victime, qui peut être soit un téléchargement d'un exécutable, soit, je présume, un lien pour s'identifier sur un faux portail avec du clonage de site web, et puis le fait de taper son login mot de passe pour la victime, pour que ces mots de passe soient collectés. Ils expliquent qu'avant d'envoyer ce lien-là, il faut qu'il y ait une vraie conversation avec l'employé. C'est-à-dire qu'ils vont pas, enfin l'employé, la victime, ils vont pas envoyer un mail à la victime de but en blanc lui dire vas-y clique là-dessus, mais ils vont ouvrir une conversation. Il va y avoir une discussion qui va s'étendre sur je sais pas combien de mails, et au bout d'un moment, il va y avoir un prétexte légitime dans lequel ils vont dire voilà, on a parlé pendant Deux jours, là de suite, on s'envoyait 10 mails pour dire « je vais vous envoyer la facture, maintenant voilà la facture, elle est à telle adresse voilà. ». Et donc, quand il réfléchit comme ça, tu te dis que probablement, effectivement, c'est du phishing et c'est pas très sexy, mais je connais pas beaucoup de boîtes, même, tu vois, y compris en Europe et même des boîtes prestigieuses, chez lesquelles l'employé finirait pas par cliquer sur la pièce jointe malveillante ou sur le lien après avoir une discussion où la confiance a eu le temps d'être établie. Tu vois. Donc je pense que là-dessus, ils n'ont pas cherché plus loin, encore une fois, parce que ça marche.
Ok, mais je me demandais s'il y avait des techniques un peu originales, des taupes, de la coercion physique, des choses comme ça, tu vois.
Enfin, non.
ou si on reste vraiment sur du basique login mot de passe sans second facteur depuis un bouncer dans un pays improbable et ils arrivent à se loguer avec ça, quoi.
Ah oui, on est clairement là-dessus. C'est ça le niveau de technicité qu'on voit dans ces leaks. Un point qui est intéressant sur les victimes que j'ai trouvé, c'est quelque chose non plus qui n'était pas intuitif pour moi, mais tu pourrais te dire, bon, ok, on voit l'écosystème, t'as le client qui va voir son fournisseur, il lui dit, voilà, j'ai besoin des informations qui sont à tel endroit, pirate-moi ce truc et donne-moi, je sais pas, tous les mails, tous les PDF, peu importe. En fait, il y a aussi un autre mode d'organisation qu'ils ont, qui est que des fois, ils s'auto-saisissent, entre guillemets, sur des dossiers. Ça veut dire quoi? Ça veut dire, ils disent, on pense que telle boîte ou tel leur gouvernement, ça va intéresser nos clients, et du coup, on va les pirater, on va prendre toutes les données, et puis après, on va les pitcher les données volées à notre client, et peut-être qu'il les achètera. Et du coup, tu vois des fois des conversations aussi où ils sont un peu deg, parce qu'ils disent, voilà, on est rentré chez machin, on a toujours l'accès, mais ils n'en veulent pas, et du coup, on a bossé pour rien. Voilà. Et ça, pour moi, si, c'est un peu un renversement qui est tout à fait surprenant, parce que peut-être que je me voile la face sur le modèle occidental, mais j'ai vraiment du mal à imaginer que, en Europe, tu puisses avoir des boîtes qui d'abord vont péter des cibles, prendre les documents et puis après essayer de les revendre. Et tu pourrais dire, non, au moins si jamais ils bossent pour le gouvernement, il y a une espèce de due process qui est en place et où, je sais pas, un gouvernement va aller leur dire, allez, vous avez un périmètre tu vois, qui est microscopique et vous avez droit à telle cible sur telle adresse IP éventuellement. Et puis, bah, vous restez juste là-dedans. Là, c'est vraiment full open bar, ils font ce qu'ils veulent et puis bah, après, ils essaient de revendre au bureau le plus offrant. Quoi. Et moi, ça m'a vraiment surpris.
Alors, je ne suis pas juriste, et on a fait un épisode sur la cyberguerre, et je crois que la délégation de l'usage de la force dans les systèmes judiciaires, enfin légaux européens et enfin occidentaux, c'est quand même très compliqué. Tu ne peux pas payer quelqu'un pour aller faire la guerre à ta place, alors, ou la cyberguerre à ta place. Mais je ne vais pas m'aventurer sur ce terrain. Par contre, une question que je me pose, c'est est-ce qu'ils font du moonlighting, comme on dit en anglais? C'est-à-dire, est-ce que s'il y a deux clients qui leur demandent les mêmes données, ou est-ce qu'ils vont essayer de vendre deux fois ou trois fois les mêmes choses en disant que c'est l'exclusivité, ou tu vas travailler en parallèle pour l'État, et puis après revendre les données ou les accès à des groupes de ransomware? Parce qu'on dit beaucoup aussi qu'il y a une porosité entre les groupes d'attaquants chinois para-étatiques et des groupes de ransomware, des initial access brokers et ce genre de choses, quoi.
Alors, c'est possible. Ça, s'il y avait, c'est le cas, je ne les ai pas vus. C'est-à-dire, je pense que ça doit bien arriver, mais je n'ai pas trouvé d'informations dans les leaks de la conversation qui me laisseraient penser qu'ils ont fait ça. Voilà. Donc, je ne peux pas m'exprimer sur ce sujet.
Ok. Y aurait encore énormément de choses à dire, mais on approche les 1 heure d'émission et tu as publié en ligne une étude assez circonstanciée qu'on mettra en référence et que j'invite les auditeurs à aller consulter. Est-ce qu'il y a peut-être un dernier sujet que tu voudrais aborder en guise de mot de la fin?
Ouais. Y a deux, trois petits trucs que je peux dire rapidement qui m'ont paru assez intéressants dans ce leak. Par exemple... Parmi les choses qu'ils vendent, ils ont une espèce de plateforme d'attaque qui est en fait une sorte de distribution. Ils te vendent un laptop qui est un Windows préinstallé avec plein d'outils de piratage open source. Donc ça, c'est manifestement vendu à leurs clients qui sont encore moins experts techniquement. Et donc, ils leur font des espèces d'interfaces graphiques où ils n'ont plus qu'à cliquer pour ensuite utiliser les outils. Ils ont fait Windows Kali, si tu veux. Donc ça m'a fait rigoler. Ils ont aussi une plateforme d'attaque qui est un peu la même chose, mais je ne sais même pas comment ça se présente, je ne sais pas si c'est une VM qui donne ou un accès à une plateforme. Je crois que c'est un accès à une plateforme. Et en tout cas, ils expliquent qu'ils ont un super framework qui est codé en Ruby, qui fait tout, genre du scan de port, qui fait du... qui peut faire de l'exploitation automatique, etc. Bon, en fait, ils ont... Je dis pas qu'ils ont rien fait, parce qu'il y a une interface graphique qui est super jolie, que tu vois sur le screenshot, mais ils ont repackagé Metasploit, Meterpreter, Nmap, SET pour le Social Engineering Toolkit, et tous ces trucs-là. Donc ça, c'est une autre dimension que je trouve parlante, c'est le fait qu'ils n'essaient pas de créer des nouveaux outils, mais par contre, les outils qui existent, et qui sont plus ou moins l'état de l'art du domaine, ils essaient de les adapter pour qu'ils soient plus faciles à utiliser pour des utilisateurs non techniques. Qu'est-ce que ça veut dire ? Ça veut dire que manifestement, il y a un skill gap dans l'écosystème, que tout le monde a besoin de faire de la montée en puissance, mais ils n'arrivent pas à trouver les profils. Et donc, la seule solution, c'est de baisser le niveau en attendant. Voilà. Donc, ils prennent des outils open source, ils font une jolie interface par-dessus, et puis on croise les doigts, peut-être que ça aidera les gens à pirater. Quoi. Donc, peut-être que ça marche, je ne sais pas, je ne me rends pas compte, mais voilà, c'est des choses avec lesquelles ils expérimentent.
Ça peut exister. Hein. Les sociétés de services qui repackagent de l'open source pour le vendre à des clients, ça se voit dans tout, sur les 5 continents.
Ça ne m'étonne pas. Ouais. Spécifiquement, dans le même ordre d'idée, ils ont fait un routeur super anonymisant, qui est en fait un routeur qui se connecte à Tor automatiquement. Voilà. Donc, les premières années, c'est gratuit. Le deuxième, je crois que c'est $15,000 de mémoire. C'est sympa. Qu'est-ce qu'ils ont fait d'autre ? Ils ont une plateforme prétendument d'influence des réseaux sociaux. Ça, je trouve ça super intéressant parce que c'est vraiment, quand le leak est sorti, c'est un truc qui a fait les gros titres. Les gens se sont dit « Ah, ça y est, les opérations d'influence chinoises, ils nous manipulent, les élections arrivent, c'est une catastrophe. » Fallait regarder un peu ce qu'il y avait à l'intérieur parce que je pense que la capacité a été largement survendue. Leur capacité d'influence, entre guillemets, Twitter, c'est quoi ? C'est comme ils ont fait pour Microsoft et pour Gmail, ils ont une plateforme de phishing pour aller ficher les gens qui sont sur Twitter et... Par-dessus, je pense qu'ils ont racheté une fonctionnalité qui permet de cliquer sur tous les comptes que t'as piraté ou de les grouper par cluster et puis d'aller automatiquement leur dire d'aller retweeter des contenus ou d'interagir avec tel ou tel contenu, poster tel message. Mais quand tu réfléchis au truc, tu dis mais ça doit quand même pas bien marcher ce truc-là. T'imagines, t'as passé une semaine à faire du phishing pour un mec et à récupérer son compte dont t'avais besoin pour aller faire du renseignement. Et après, tu vas cramer ton accès pour aller retweeter un machin avec lequel le mec a jamais interagi. Je pense que ça marche pas. Ils parlent jamais de faire des faux comptes ou de manipuler des flottes de personas qui ont été créés de toutes pièces. Donc, à mon avis, ce machin-là, c'est quoi ? C'est ils avaient cette plateforme Twitter qui répondait à un besoin de renseignement. Ils ont eu un jour un client, ou vraisemblablement plein de clients qui ont dit faudrait qu'on ait la capacité d'influencer les réseaux sociaux, spécifiquement Twitter, et plutôt que dire on n'est pas capable, ils ont fait une feature à la va-vite, et ils l'ont mis dans le produit, et derrière ils ont acheté ça dans la doc commerciale, disant voilà, maintenant ça y est, on fait de l'influence. En pratique, je serais très étonné s'ils avaient fait une seule opération d'influence qui a fonctionné avec cette plateforme.
Ok, c'est quand même pas mal pour une équipe de 20 développeurs, ils sont à la fois au four et au moulin, si je puis dire.
Effectivement. Ils développent, alors les backdoors, ils vont pas vite dessus, ils ont un peu de mal à les faire. Par contre, pour ce qui est de faire des frameworks et puis des interfaces graphiques, là, ils sont vraiment à fond. Alors, pour atténuer un petit peu ce constat, je dirais que je suspecte que, comme pour leurs plateformes, qui ont l'air de sortir toutes du même moule, je pense que leurs différentes interfaces graphiques, à mon avis, c'est toujours un peu la même et qui rebrandent à chaque fois. Un point aussi qui m'a intéressé dans tous ces produits qu'ils ont en commun, c'est qu'il y a toujours des features de logging et d'audit. C'est vraiment très très organisé, je sais pas comment dire ça, mais vertical en fait, comme mode d'organisation du travail. Pour toutes ces plateformes, la manière dont ça marche, c'est que tu as un manager, il dispatche des tâches aux différents employés, les employés les font, et puis après, tout ce que fait l'employé, ça va être noté quelque part. Genre, s'il télécharge la backdoor, c'est noté. Si jamais il a besoin d'utiliser tel outil, ce sera logué aussi. Et à la fin, il a un score qui est mis par son manager pour son évaluation personnelle. Quoi. Voilà. Et tu as vraiment le sentiment qu'à chaque fois qu'ils font un truc, alors autant la boîte peut s'auto-gérer et aller pirater qui elle veut, quand elle veut, où elle veut, mais autant le pauvre employé tout au bout de la chaîne qui va effectivement faire ce piratage, alors lui par contre, tout ce qu'il fait est tracé et auditable et peut être regardé, peut-être utilisé contre lui plus tard. Donc moi j'avais trouvé ça assez parlant de voir que malgré tout, il y a cette dimension de micromanagement qui infuse tous leurs outils. Et voilà, ça m'a paru marrant.
Oui, après, je ne suis pas un expert de la culture chinoise, mais je sais que dans les usines, il y a des mégaphones dans tous les bureaux et le chef doit pouvoir hurler sur tout le monde en appuyant sur un bouton. C'est un design important dans les usines chinoises. Voilà. Petite anecdote vécue.
Ouais, marrant. Alors là, il parle pas de mégaphone, mais par contre, spécifiquement, tu vois bien que c'est built-in, la possibilité d'observer ce que fait tout le monde. Peut-être un dernier exemple de ce qu'ils font. Ils font du consulting sur les architectures de réseau pour faire de l'attaque informatique. C'est-à-dire qu'ils proposent un diagramme réseau sur comment est-ce que tu montes une salle depuis laquelle les employés vont attaquer, comment est-ce que tu anonymises ton accès pour aller vers les C2 et puis ensuite des C2 vers les victimes. Le petit point, moi, qui m'avait fait sourire, c'était de voir qu'ils recommandent ouvertement d'acheter tous les serveurs de commande et de contrôle avec des fausses identités. Et deuxième point, ils disent que tous les opérateurs qui se connectent au C2, il faut absolument qu'ils aient un clavier qui soit configuré en langue non chinoise. Voilà. Alors, on sait qu'en pratique, ils ne l'ont pas vraiment fait ou pas toujours fait. Donc, je pense que l'instruction, elle est là, la recommandation est là pour une raison. Mais ça montre qu'ils réfléchissent à ces problématiques d'OPSEC et au point où ils vont même revendre le savoir-faire.
Bah en tout cas, merci. C'était extrêmement intéressant. J'espère que ça donnera envie aux gens d'aller lire l'étude plus détaillée. Chers auditeurs, nous espérons que cet épisode vous aura intéressé. Nous vous donnons rendez-vous la semaine prochaine pour un nouveau podcast. Au revoir.
Au revoir.